inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 31.
Dante en bleu horizon.
Dante Alighieri écrit au chant 18 de l'Enfer de la Divine Comédie dans la traduction française en vers de Louis Ratisbonne.
Qui pourrait dire, même en un libre langage, le spectacle hideux de sang et de carnage que mes regards alors furent contraints de voir. Il n'est pour l'exprimer de langue ni de style, et toute lèvre humaine y serait inhabile. À peine si l'esprit le peut bien concevoir, ceux de la longue guerre où tant d'hommes périrent.
La mise en scène, involontaire et grotesque, des corps, dans le sommeil ou la mort, a frappé bien des poilus. Pierre Lanvin, aspirant au 22e régiment d'infanterie, note le 20 septembre 1916 dans le train qui le conduit de Paris en Champagne.
On s'entasse dans des wagons à bestiaux. 45 par wagon. Contraste entre notre sort et celui des officiers qui se prélassent en première classe. Départ à 19h, la nuit. Tableau de tous ces petits gars entassés dans ce fourgon noir. Mangeaille, chansons, chaos, grincement, odeur, lumière clignotante. Ils finissent par s'endormir tous, les uns sur les autres, dans des poses parfois charmantes. Tristesse et beauté de leur sommeil.
Mais il y a bien pire. Ferdinand Georgel, originaire de Champagnole dans le Jura, est brancardier au 5e régiment territorial d'infanterie. Le 9 novembre 1915, il décrit une bien macabre scène.
Berthaud, de mon escouade, avec Tobati, de la 2e escouade, était en train de causer avec une femme du pays lorsqu'arrive une marmite qui éclate au beau milieu des trois. Elle tue la femme et Tobati, et coupe net les deux jambes à Berthaud, lui faisant encore des blessures au bras et à la figure. La violence du coup est telle que les deux morceaux de jambes vont taper contre un mur à 8 ou 9 mètres, et que le dessous des semelles de souliers sont imprimés très nettement sur le crépissage. C'est affreux.
André Bitaud, après 4 jours en enfer au bois de Lauffay, part au repos. Il revient à la mi-juillet 1916, sur le champ de bataille à la batterie du tunnel. Là, un spectacle dantesque s'offre à ses camarades et à lui.
Une batterie entière, hommes, bêtes et matériels, y avait été anéantie. C'était un véritable charnier. Des attelages entiers étaient immobilisés par la mort. Des cadavres de cavaliers étaient enfouis dans des cadavres de chevaux en putréfaction. Là gisaient pêle-mêle, à demi rentrés dans la terre, des hommes, des bêtes, des caissons avec leurs munitions, des canons, des fusils, des casques, ainsi que quantité d'autres objets que tout soldat en campagne peut posséder, dispersés un peu partout par le vent des explosions. Un cadavre humain, la tête enfouie dans la sanie d'un ventre chevalin, semblait se repaître de cette pourriture, tous dans des attitudes les plus inattendues, les plus grotesques. Des cadavres gisaient partout, les uns la face noire et cireuse, les lèvres gonflées et violettes, les autres décharnées, commençant à se liquéfier. D'autres bouffis, gonflés comme des baudruches, tous couverts de mouches, rongés par les vers qui, en paquets, grouillaient dans une bouillie verdâtre. Un peu plus loin, un autre cadavre qui, dans un effroyable rictus, semblait avoir voulu faire face à la mort, dans un geste figé, le poing levé, la langue pendante, des yeux encore terribles, racontaient la scène suprême et effrayante de cette mort violente. À côté, celui-là, mort sans réaction, gisait un autre cadavre, le ventre ouvert, de la poitrine jusqu'à l'anus, montrant une matière verdâtre qui se liquéfiait, moitié détachée du corps. Sa virilité s'étalait dans une totale impudicité, s'offrant elle-même à l'assaut d'un essaim de mouches mordorées. tout près. Un autre, debout, contre un talus, la jambe raide et levée, les bras semblant s'agiter, la face levée vers le ciel, la bouche tordue en une horrible grimace, semblait prendre part à un infernal et grotesque carnaval.